Scrabble.
Bien joué Jean-François, camembert jaune.
Non mais là on va faire 60 jets de dés chacun. Comme ça on sera tranquille, on aura de la marge.
S'il te plaît, les échecs demandent beaucoup de concentration. Hein ? Ça, on joue pas aux petits chevaux là, là c'est la cour des grands là.
Olivier Mine, c'est la carte mystère.
Soit on annule le tour, soit on passe, soit on change de sens.
Veuillez m'excuser, cette dernière main a failli me tuer.
Putain, sors Will !
Je sais pas quoi faire !
Balance-lui une boule de feu,
que je fasse au minimum 13 !
Non, c'est trop risqué !
Vous entrez dans le mystérieux club des platistes. Ici, on est obligé de s'amuser. Les rabat-joie ne sont pas les bienvenus. Nous nous réunissons tous les deuxièmes dimanches du mois, de 13h à 14h sur Prune. Tous les mystères de l'univers du jeu de société vous seront révélés. Vous découvrirez les nouvelles sorties, l'histoire d'un jeu de société et les plus noirs secrets du business ludique. À vous de jouer.
Bonjour et bienvenue dans ce quatrième chapitre, ce quatrième tour de notre émission, le Club des Platistes.
Oui.
Une émission d'hiver, donc vous allez entendre des gens renifler, tousser, tout le monde est malade. On va essayer de faire au mieux.
Bonne année, bien sûr.
Bonne année, oui.
Bonne année.
Donc autour de cette table de jeu, toujours les mêmes frimousses. Brian à la technique. Bonjour Brian.
Bien le bonjour.
Guilouen.
Bonjour.
Azilis.
Bonjour.
Anne-Lise.
Bonjour.
Et Cyrielle.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons évoquer le jeu de société et l'argent. On a essayé de se circonscrire au jeu de plateau et déjà, c'était pas simple de tout faire rentrer en une heure d'émission. Les jeux d'argent, gérer un budget, s'enrichir, appauvrir les autres. Et même sans les faux billets du Monopoly, dans une majorité de jeux, il est question de gestion de ressources, de l'intérêt du monopole, d'entente, de trahison, de libre-échange. Dans notre première partie, Cyrielle, tu reviendras justement sur l'histoire des jeux d'argent et leur évolution. En 2021, le chiffre d'affaires des jeux de société en France était de 636 millions d'euros, cartes de Pokémon incluses. Il y a eu plus de 30 millions de boîtes vendues, soit presque une par seconde. Le jeu de société se porte très bien, avec une croissance de plus de 10% par an. 1000 nouveaux jeux de société sortent dans le monde chaque année. Azilis, tu nous parleras du capitalisme à travers les jeux de société. Enfin, en troisième partie, nous parlerons du Monopoly. Comment passer à côté de ce jeu, vu la thématique de notre émission. Mais avant ça, on se triture les méninges avec Brian, qui va nous proposer son énigme.
Alors, pour l'énigme du jour, je suis lourde, je suis légère, mais je suis impalpable. On me met ou on me casse. Qui suis-je ?
Je suis lourde, je suis légère, mais je suis impalpable.
Je vais répéter une autre fois. Ouais. Je suis lourde, je suis légère, mais je suis impalpable. On me met ou on me casse. Qui suis-je ?
Mais où on me casse ? Moi, j'avais l'argent
casser
au début
la voix.
Parce que je m'étais dit que c'était tellement facile.
Eh bien,
non,
on aura la réponse à la
l'air
fin de l'émission.
Merci, Brian, et on espère que Guilouen ne trouvera pas.
Hein. Oh là là, ça
c'est quand même notre objectif,
Guilouen,
là.
Il a presque la solution, ça me fait peur.
Et donc, pour commencer notre émission, notre historienne Cyrielle nous relate la genèse des jeux d'argent.
Oui, alors, les jeux d'argent ou les jeux de hasard sont apparus il y a des milliers d'années. D'abord utilisés comme divertissement, ils ont ensuite constitué une source de revenus pour les pouvoirs en place. D'après des recherches archéologiques, leur existence débuterait vers l'an 3000 avant Jésus-Christ, dans l'ancienne Babylone. Les premiers pays à les avoir pratiqués seraient la Chine ancienne, Rome, l'Égypte et même l'Inde. Déjà en ces temps, les jeux de hasard étaient assez nombreux, mais les plus appréciés étaient le pari. Les gens pariaient surtout sur les guerres. Viennent ensuite les jeux de dés, pour donner place à toute autre forme de jeu au fil du temps. Vers les années 1800, les entités politiques et religieuses luttaient pour combattre le fléau de ces jeux. L'Empire romain et l'Empire grec ont d'ailleurs interdit les jeux de dés et les jeux d'osselets dans leurs lieux publics. Par la suite, ce sont les religions musulmanes, chrétiennes et juives qui les ont bannis. En France, en 1813, le Concile de Mayence proclame que tous les chrétiens pratiquant des jeux de hasard seraient sanctionnés. Les jeux de cartes seraient apparus en France au Moyen-Âge et auraient permis la création de nombreuses variantes de jeux, leur diffusion étant rendue possible par l'invention de l'imprimerie. À cette époque, les jeux d'argent et de hasard étaient stigmatisés par le clergé, accusés d'être inventés par le diable. À ce sujet, est-ce que vous savez que chaque symbole de carte représente une couche de la société ? Donc si je vous dis pique, cœur, carreau et trèfle, à votre avis, à quelle partie de la société ça fait allusion ?
Voilà. Est-ce que le trèfle, c'est les paysans, les paysannes ?
Alors, exactement. Ah oui. Le trèfle représentait les paysans. Bravo, Azilise.
Ouais, bravo.
Alors, ensuite, la bourgeoisie. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui représente
le carreau, la bourgeoisie le pire, et la noblesse, le cœur ?
Ouais.
Waouh ! Alors, pas le cœur pour la noblesse. Donc, le pique représentait la noblesse.
Okay. Okay.
Le cœur représentait le clergé.
Ah oui.
L'amour de Dieu.
Le carreau,
c'est bien sûr.
La bourgeoisie et le trèfle, les paysans. Ensuite, du Moyen-Âge et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, les jeux subissent la forte opposition du clergé, de l'État et des philosophes. De nombreux textes sont rédigés du 17e au 18e pour interdire les jeux d'argent et de hasard jugés contraires à la morale et dangereux pour la société, entraînant la ruine des familles. Ces interdictions étaient cependant contournées, avec notamment l'installation de salles de jeux clandestines dans les appartements particuliers de la noblesse. La monarchie elle-même ne respectait pas ces interdictions. À partir du règne de Louis XIV, pour contrôler et occuper la cour, notamment à Versailles, les jeux étaient tolérés. Les autorités, se rendant compte de la difficulté de faire disparaître totalement les jeux, elles préfèrent alors les autoriser sous condition afin de mieux les contrôler. La noblesse, la cour et l'armée étaient les seuls à disposer de temps et d'argent pour s'abonner aux jeux. Ce n'est qu'avec la création des loteries à la fin du XVIIIe siècle que le jeu se répand dans les milieux plus modestes, mis en place par la royauté qui s'en réservait le monopole. Elle devait permettre la construction d'édifices militaires, religieux et civils, ou combler la dette du royaume. Toutes les autres loteries non royales étaient interdites. En 1774 naît la loterie de l'école militaire, première loterie nationale qui finance le Champ de Mars et l'école militaire. Elle deviendra loterie royale en 1776. Au cours de la période révolutionnaire et des Lumières, la loterie fit l'objet de nombreuses attaques, jugées source de vices et d'accoutumance. Elle fut supprimée en 1793, puis rétablie en 1799, avant de devenir la loterie nationale en 1933. Après une longue période mêlant interdiction, marginalisation et tolérance, l'histoire officielle des casinos débute en France en 1806, avec un décret qui permit l'ouverture des casinos dans les stations balnéaires, et uniquement pour les lieux où il existait des eaux minérales et évidemment pour la ville de Paris. Cette limitation géographique correspondait à la volonté de préserver les populations les plus démunies de la tentation du jeu et d'offrir aux riches clients des stations thermales un divertissement. En 1907, la loi autorise aussi les casinos dans les stations thermales et climatiques. En 1920, elle est interdite de nouveau à Paris et dans un périmètre de 100 km aux alentours. En 1988, un amendement dit Chaban-Dalmas permet d'élargir les possibilités de dérogation aux villes de plus de 500 000 habitants disposant d'une scène dramatique, d'un orchestre national ou d'un opéra. Bon, en conclusion, ce qu'on peut comprendre, c'est que les jeux de hasard ont d'abord été créés dans un but d'occupation, puis détournée en jeu d'argent afin d'enrichir et de divertir la bourgeoisie. À travers le temps, les autorités ont essayé d'interdire ces pratiques sans succès. Et aujourd'hui encore, ces jeux sont bien réglementés, mais attirent toujours autant.
Merci, pardon, merci Cyrielle. Et pour lancer le prochain morceau, je ne peux m'empêcher de le lancer avec un de mes slogans préférés en manifestation. ABBA, ABBA est un groupe suédois.
Le Club des Platistes sur Prune 92 FM.
ABBA, money, money, money. Et Guidouane, c'est à toi pour C'est le game.
C'est le game.
Vous avez appelé le service comptabilité ? Ne quittez pas. Même si le jeu nous renvoie au ludique, créer demande de l'investissement en temps et en argent. Et quand tout va bien, ça génère des profits. Un partage doit donc être fait entre les différents acteurs. Dans notre première émission, nous avons évoqué l'exemple paradoxal du Cluedo. Il s'est vendu plus de 150 millions de Cluedo dans le monde, mais ses inventeurs ne sont pas devenus riches pour autant, puisqu'en 1953, Anthony Pratt a cédé ses droits à Waddington après que l'éditeur lui a expliqué qu'il n'avait pas de succès. Pratt aurait perçu l'équivalent de 5 500 € seulement. Plus proche de nous, Antoine Boza, le créateur de Seven Wonders, explique dans une interview que sur un jeu, l'auteur ne touche que 7% du prix éditeur. Le Seven Wonders lui a permis de vivre de sa passion, de voyager, de continuer à créer des jeux. Après la sortie du jeu, il a quitté son métier d'instituteur et partage un local avec un autre auteur et sa femme, illustratrice de bande dessinée. Mais il n'a ni château, ni voiture de luxe, et il précise qu'on ne le reconnaît pas dans la rue. Seven Wonders s'est vendu à près de 2 millions d'exemplaires dans le monde et a reçu plus de 30 prix internationaux. Le pourcentage de rémunération dépendra parfois de l'état dans lequel le jeu est signé. S'il reste beaucoup de travail et que l'éditeur doit donc plus s'y impliquer, il est assez logique que le pourcentage soit un peu moins élevé. Certains auteurs négocient des contrats plus élevés, 12-15%, ou des droits d'auteur évolutifs selon le succès du jeu. Mais c'est encore loin d'être la norme, et généralement le pourcentage est entre 4 et 8%. Mais attention, le prix éditeur n'est pas le prix public. Avant d'arriver dans les mains des joueurs, un jeu de société passe par de multiples étapes, par plusieurs intermédiaires. L'auteur crée, teste et améliore le jeu. L'éditeur peaufine le jeu, finance ses illustrations et sa fabrication, le fait connaître. Le distributeur assure la commercialisation et l'expédition du jeu auprès des boutiques. Et enfin, la boutique vend le jeu et le rend accessible auprès des joueurs. Un jeu de société, c'est comme un gros gâteau. Le gâteau est découpé en parts et chaque invité en reçoit une. En économie, on appelle ça la chaîne des valeurs. Cette chaîne des valeurs est relativement stable dans le milieu ludique. Pour un jeu à 30 euros TTC, elle se découpe globalement de cette façon. L'auteur a 75 centimes, desquels il va retirer les frais de présence en festival et les frais de prototypage. L'éditeur, 9,75 euros, desquels il retire la fabrication, l'illustration, le graphisme, la communication et les charges diverses et les salaires de son équipe. Le distributeur, 4,50 euros, desquels il va retirer les frais de logistique, les frais d'expédition en boutique, des charges diverses et également des salaires. La boutique, 10 euros, desquels elle va retirer l'allocation de sa boutique, toujours les charges diverses, les pertes liées aux invendus et les salaires de son équipe. Et enfin, l'État, la TVA, 5 euros.
Ça fait bizarre, hein ?
Voilà. De très rares auteurs sont salariés et reçoivent donc un salaire fixe. Ils ne sont pas payés aux droits d'auteur. Certainement très peu d'auteurs de jeux de société vivent de cette activité. Voici quelques noms. Antoine Boza, Rainer Knizia, Klaus Teuber, Wolfgang Kramer ou Michael Schnaff. En effet, la plupart des auteurs de jeux de société modernes actuels ne sont pas des professionnels, mais créent des jeux comme lobby, le soir, le week-end, en plus de leur travail ordinaire. C'était le cas de Bruno Catala à ses débuts. Nous avons déjà parlé de lui dans notre deuxième émission, puisqu'il est co-auteur avec Antoine Boza de Seven Wonder Duel. L'auteur très prolifique compte maintenant 26 années de création de jeux à son actif. Mais pour continuer à vivre, il doit tout de même travailler deux après-midi par semaine dans des boutiques de jeux. Chacun de ces jeux se vend entre 5000 et 10 000 exemplaires, ce qui fait pour l'auteur un maximum approximatif de 4000 euros par création. Qu'à cela ne tienne, Bruno Catala fournit de bonnes idées et se consacre toujours à sa passion, presque à temps plein. Le meilleur moyen de savoir si un nouveau jeu va marcher, le tester sur des groupes de joueurs, à l'occasion de festivals ou dans des cercles de connaissances. Selon Bruno Catala, 50% du métier d'auteur réside dans la création et 50% dans la représentation. Il ne suffit pas d'avoir le meilleur concept du monde, encore faut-il le vendre aux éditeurs. D'où un long travail de VRP, démarchage, présence en salon. Et à ce jour, il n'existe aucune formation pour les auteurs de jeux. On le voit, pour un jeu vendu à 40 euros, peut rapporter jusqu'à 1 euro à son auteur. Alors bien sûr, dans le cas de best-sellers comme le Monopoly, 200 millions d'exemplaires vendus, ou les Colons de Catane, 15 millions, c'est le jackpot. Mais aujourd'hui, on commence à parler de succès à partir de 5000 exemplaires vendus. Avec souvent 6 mois de travail de l'auteur avant de proposer son jeu, et ensuite, le moment enfin pour l'éditeur de délai d'accepter, de peaufiner et de produire, on voit que ça prend du temps dans une année. Pour certains auteurs, ils deviennent également éditeurs, afin de gagner en indépendance et en marge financière. Et aujourd'hui, le marché de la production ludique est très concurrentiel, voire saturé. Comme on l'a dit en introduction, environ 1000 jeux sont publiés chaque année. Toutes ces contraintes n'empêchent pas de jeunes auteurs de se lancer, rêvant un jour de faire jouer dans le monde entier et de faire traduire leurs créations en anglais, allemand, japonais ou portugais.
Merci Gildouen. Alors petite question pour vous, quelle est à votre avis la plus grosse entreprise de jeux de société? Comment elle s'appelle?
Hasbro.
Oui, Hasbro. Ouais. Hey, bravo. Chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars dans le monde. Hein. Ça vient des États-Unis. Hasbro, vous connaissez des jeux Hasbro?
Bien sûr. Le Monopoly, non?
Tous les jeux Hasbro, mais oui. Qui est-ce? Puissance 4, Mastermind, Trivial Pursuit, La Bonne Paye, Dr Maboule. En fait, ils ont Risk, Cluedo. Ils possèdent MB, Parker, et même les cartes Magic, j'ai vu.
C'est ce que j'allais dire, oui, on connaissait MB, mais... Ouais. Ouais.
Deuxième, encore aux États-Unis.
Est-ce que tu peux nous dire des jeux de la maison d'édition?
Ouais, Uno, Pictionary. Alors c'est une maison d'édition qui est plutôt présente dans le jouet, qui fait surtout des barbies.
Ah, Mattel, oui, Mattel.
Oui, Mattel. Mattel.
Il était un peu panique, la panique. Il a
à noter que le Scrabble, ça c'est rigolo, il appartient à Hasbro aux États-Unis et à Mattel dans le reste du monde. Je ne sais pas pourquoi.
Ah bon, bah, ouais. Qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas enquêté.
Pas les mêmes lettres, hein.
Peut-être au moment de la vente de droits, un peu comme il y a eu au Cluedo, qui avait un éditeur européen et un éditeur américain.
Et alors en France, qui est le plus gros? Qui a tout racheté?
Abba.
Non.
C'est vrai.
Eh bien, c'est Asmodée. Asmodée, alors c'est une petite société à la base. Hein. Ils faisaient du jeu de rôle. Ils ont fait Jungle Speed. Après, ils ont fait des cartes à collectionner. Et ils ont notamment eu la version française des Pokémon. Et là, ça a commencé à bien marcher. Donc, il y a un fonds de placement qui les a rachetés. Et ils ont commencé à racheter tout le monde. Donc, ils ont racheté Days of Wonder, ceux qui font les aventuriers du rail. Repos Productions, qui fait Seven Wonders Time's Up. Ils ont racheté Libellude avec Dixit. Ils ont développé du party game à fond, c'est Double par exemple. Et aujourd'hui, tout le monde veut Asmodée, puisque la boîte s'est fait racheter par un groupe suédois. On parlait d'Abba tout à l'heure. Et là, c'est Embracer Group pour 2,75 milliards de dollars quand même. Hein. Donc acheter un jeu de société, c'est comme pour les bouquins, c'est pas facile de pas tomber dans le groupe Hachette. Hein. Alors à noter qu'aujourd'hui quand même, pour sortir de ça, il y a beaucoup de jeux de société qui se développent sur Kickstarter et ça a un peu bousculé les codes. Avant, c'est ce que t'expliquait Gildouen, hein. On avait une idée, on cherchait un éditeur, un distributeur, et il y a de plus en plus de financement participatif pour les jeux, puisqu'en 2021, sur Kickstarter, 270 millions de dollars ont été collectés. Et il y a même certains jeux qui ont reçu plus d'un million de dollars. Voilà. Et donc, il y a de plus en plus de...
C'est une sorte de crowdfunding.
Ouais, c'est un crowdfunding. Oui, oui. C'est ça, en fait, tu dis quel jeu tu vas faire et en fait, tu le payes, c'est comme une souscription. Et ça marche de plus en plus. Alors, en France, c'est visiblement la plateforme Ulule qui est le plus utilisée.
Oui, souvent, oui, c'est ça, elle est connue.
Ouais, voilà. Vasilis, tu as aussi enquêté sur le capitalisme et les jeux de société.
Exactement, je me suis dit, dans les jeux de société, on a envie de gagner plus. Toujours plus. Cette recherche du profit à tout prix, en écrasant ses adversaires, ça sonne un peu capitaliste, non? Et oui, le capitalisme est partout dans les jeux de société, dans leur production, leur vente et même dans leur contenu. Le marché des jeux de société se porte très bien. Et pour les maisons d'édition, il va falloir qu'un jeu rapporte un maximum. Pour les petites maisons, bah, l'idée, ça va être de survivre. Et pour les grosses, comme Asmodée dont tu parlais, ou Hasbro, ça va être de donner le plus d'argent possible aux actionnaires. Justement, Hasbro, qui est coté en bourse, a augmenté de 3% les dividendes reversés aux actionnaires au début de l'année dernière. Et pour faire le plus de profit sur un jeu, il faut en vendre, donc on pousse à consommer. Il y a une attention plus marquée à la boîte du jeu et qui doit attirer l'œil. On fait une tonne d'extensions et puis on investit dans la publicité.
Ça vous dit une petite partie?
Ah oui.
Je tire une carte,
ah oui.
Dessus il y a un mot. J'ai une minute pour vous le faire deviner rien qu'en le dessinant.
Soldat.
C'est prisonnier.
Ligoté.
Ça y est, c'est fini. C'était Camisole.
Le fameux jeu où le docteur Lenoir est assassiné. Avec la corde dans la cuisine, avec le poignard dans la bibliothèque. Non, c'est le colonel Moutarde avec le chandelier la nuit partant de brouillard.
Qui est? Docteur Impôt, ses yeux sont bleus. C'était Louis, c'est pas une fille. Trépied et moustachu, ça c'est bien vu. Il a des lunettes et une casquette, c'est Jack. Pas bête, trouve le nom, t'as gagné, t'es champion.
Bien sûr, tout ça, c'est pas juste fait pour se faire un max de blé. Si on fait attention au visuel du jeu, c'est aussi une recherche esthétique. Si on fait des extensions, bah, c'est aussi que les créateurs et créatrices du jeu, une fois le jeu édité, ont de nouvelles idées pour l'améliorer. Et puis, si on communique pas sur un jeu, bah, personne ne l'achète, personne n'y joue, et ça a quand même assez peu d'intérêt. Et pour faire du profit sur un jeu, il faut le vendre, mais il faut aussi dépenser le moins possible pour le produire. La grande majorité des jeux sont produits en Chine, où les coûts de fabrication sont moins chers, mais du coup, les conditions de travail, pas vraiment tip-top. Et alors, si le monde des jeux de société est ultra-capitaliste, eh ben, les jeux aussi en eux-mêmes. Il y a plein de jeux sur le thème de l'économie, notamment le Monopoly ou la bonne paye. Le but, c'est d'avoir plus d'argent, plus que les autres, et si possible, de prendre de l'argent aux autres. On investit dans des terrains au Monopoly, des matières premières dans Richesse du Monde, mais on peut aussi investir dans des choses beaucoup plus originales, comme dans le jeu Bloome, où on produit des fleurs. Donc c'est tout joli, tout mignon, mais il s'agit tout bonnement de jouer à qui a la plus grosse serre. Le thème de l'économie est aussi choisi pour des jeux pour enfants. Par exemple, j'ai vu un jeu qui s'appelle Magic Market, où on a des petits stands où on doit vendre et acheter des objets magiques. Mais bon, voilà, bah même si on vend des baguettes magiques, c'est la même chose, on essaie de se faire de la thune. Et il y a de plus en plus de jeux qui adoptent une thématique autour de la finance, de la bourse. Notamment les jeux du type 1830, il y en a plein de versions, où on prend des parts dans une compagnie ferroviaire. C'est pas très étonnant parce que la bourse, c'est un peu un jeu. On parie, on élabore des stratégies, et puis ça fait quand même moins mal quand c'est des pièces en plastique. Dans tous les jeux, il y a un côté un peu désincarné. On se fait de l'argent, mais on sait pas trop comment. Les maisons du Monopoly, elles se construisent toutes seules, elles sont déjà faites. On oublie un petit peu qui sont les travailleurs, les travailleuses qui nous font gagner. Donc je vous propose un petit jeu très rapide. Je vais vous dire le nom d'un métier. Il va falloir deviner dans quel jeu ce métier est indispensable à la réussite du jeu. Prêt, prête ?
Ouais.
Alors, dans quel jeu on a absolument besoin d'un anesthésiste ?
Le docteur Maboul.
Ah, oh, vous êtes trop rapide. Je me disais, on ne va jamais y penser, on ne le voit pas. Et il y a un jeu qui prend le contre-pied un peu de ça, de ce truc où voilà, je me fais de l'argent à partir de personnes qu'on ne voit même pas. C'est le jeu Feierabend de Friedman Friese. On joue justement un de ces travailleurs ou travailleuses dans une usine. Mais là, le but, ça ne va pas être de faire de l'argent. Ça va être d'améliorer ses conditions de travail et de gagner du temps libre pour se reposer. Et même quand ils ne traitent pas d'économie, les jeux reposent souvent sur une mécanique capitaliste, notamment les jeux de gestion de ressources, qui conduisent généralement à accumuler des richesses, ou parfois à accumuler du pouvoir. Certains de ces jeux reposent plus particulièrement sur la mécanique de l'engine building, de la construction de moteurs. On développe ces ressources, qui permettent ensuite de gagner de plus en plus de points, de billets, de jetons. C'est le cas, par exemple, de Seven Wonders. C'est comme dans la société capitaliste, le fait d'avoir un coup d'avance sur les autres, d'avoir une bonne position dans le jeu, ça fait qu'on a un privilège et après on gagne de plus en plus. On en avait déjà parlé le mois dernier, les jeux de société reflètent en partie notre société. Et puisqu'elle est capitaliste, les jeux le sont aussi. Alors après, je ne sais pas trop quoi en penser. D'un côté, je me dis, bon bah, c'est sûr que si on joue toujours à des jeux comme ça depuis tout petit, on sortira jamais de nos mentalités capitalistes. Mais d'un autre côté, ça peut avoir un peu un effet cathartique. On joue le gros capitaliste sans pitié qui dépouille tout le monde. Comme ça, on ne le fait pas dans la réalité.
Merci, Azilis. Est-ce que vous savez ce que veut dire l'expression « acheter un château en Espagne » ?
Faire des plans sur la comète ?
Ouais, c'est un peu ça, c'est même complètement ça. Voilà, échafauder des projets chimériques qui ont peu de chances d'aboutir. Eh bien, c'est une expression qui a été utilisée dès le Moyen-Âge, puisqu'on la retrouve dans le fameux roman de la Rose, et on retrouve aussi cette expression dans la chanson de Zazie, Rue de la Paix.
Je vends mon auto puisque je roule trop vite et que ça me fait peur. Je vends mon magot puisque tant de réussite ne fait pas mon bonheur. Je vends mes charmes et mes armes, ma violence et ma douceur. Je sauve ma peau, vends mon âme au diable. Je vends mon usine avant que l'oxygène vienne à nous manquer. Je vends ma gasoline avant que la mer ne vienne mourir à nos pieds. Je sauve la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et je sauve les meubles et vends la maison.
J'achète un château en Espagne.
et rester quelques tours en prison. Pour mettre un hôtel rue de la paix, pour mettre un hôtel rue de la paix, un monde où tout le monde s'aimerait, enfin gay. J'achète un château en Espagne, j'achète un château en Espagne, j'achète un monde où tout le monde gagne, à la fin gay. Je vends tout ce que j'ai contre tout ce qui me manque. Je vends ce qui s'achète contre ce qui n'a pas de prix. Et je vends ce que je vaux contre ce qui m'est le plus cher. Et si ça ne vaut pas un clou, tant pis, je donnerai.
Abba nous parlait de monnaie, Zazie évoquait la rue de la paix, il est donc plus que temps d'ouvrir la page du Monopoly. Oui, vous savez, ce jeu où la plupart du temps, on connaît la gagnante au bout de 20 minutes, mais il faut encore 4 heures pour vraiment nous ruiner.
Anne-Lise,
qui a posé sa couronne, nous raconte l'histoire du Monopoly.
La petite histoire.
La couronne, parce que j'ai gagné la fève, hein, je tenais à le dire, c'est moi la reine ce soir. Bref, merci Antoine. Oui, je vais vous raconter l'histoire du Monopoly, qui est pour ainsi dire une sombre histoire de tricherie dans un contexte de merde. Voilà. Année 1930, nous sommes à Philadelphie. Charles Brace Darrow, ingénieur au chômage depuis la crise 29, commercialise un jeu de société dont le principe est d'acquérir des biens immobiliers en ruinant ses adversaires. Pas méga méga sympa le type, on sent qu'il en a gros sur la patate. Et on le comprend, il accumule sans succès depuis la crise les petits boulots dans une ville qui compte 300 000 chômeurs et nombre de campements sans abri. Lors d'un petit repas entre copains, Todd, le poteau de Charles, lui fait découvrir le Monopoly, un jeu fait maison que notre chômeur ne connaissait pas avant. Emballé, il demande à son pote de lui faire un set et de lui copier les règles. Puis il ghoste Todd et le laisse en vue. Il le redesigne avec un copain illustrateur, s'active à faire des copies à la main et d'ailleurs recopie inlassablement une faute d'orthographe dans les règles que son pote lui avait offert et convainc un grand magasin de revendre le jeu. Il force jusqu'à ce qu'en 1935, l'éditeur Parker Brothers achète les droits du Monopoly après avoir dit non plusieurs fois. Finalement, ils arrêtent de prendre Charles pour un trou de balle et lui filent $7,000 plus redevances. Ouf, Charles Darrow devient millionnaire, sur un petit malentendu. Quand le président signe avec lui, il lui demande s'il est le seul inventeur du jeu et ce bon vieux Charles répond « oui ».
Évidemment.
C'est la petite histoire, avec le mensonge en moins et sans le mot « trou de balle » que j'avais très envie de caser, qu'on voit jusqu'en 2012 sur le site officiel du Monopoly. Mais cette histoire est fausse, bande de gros mythos. En plus d'avoir mis Skin Todd, vous avez effacé une femme dans l'histoire. Et c'est marrant, ça vous arrive souvent.
Regarde en disant ça.
Retour à la case départ, pardon. On recommence dans un contexte toujours plus merdique. 30 ans plus tôt, 1904, Charles Darrow a 15 ans et tape sa meilleure crise d'ado, mais ça on s'en fout parce que nous, on est à Washington DC et c'est pas ouf. Dans la fin du 19e siècle, les travailleurs ne comptent pas leurs heures dans des conditions abominables et pour des salaires de misère. Leurs employeurs s'en mettent plein les poches, construisent des monopoles, étouffent la concurrence, exploitent leurs salariés et sapent la démocratie. La lutte des classes apparaît, les syndicats se forment. C'était déjà dans ce contexte que Henri Georges, économiste, avait écrit un best-seller en 1879 appelé « Progrès et pauvreté ». C'est intéressant, mais je vais être obligée d'abréger. En gros, selon lui, les terres sont des dons de Dieu, que les travailleurs enrichissent par leur travail quand les propriétaires des terres, eux, ne font que les posséder. Cela devrait payer des taxes foncières qui aboliraient les autres formes d'impôts et serviraient au bien commun. Un mouvement politique naît de cette idéologie, celui de l'impôt unique, dont Elisabeth Maggie Phillips fait partie, puisqu'elle devient, en plus de son travail d'écrivaine, scénographe et actrice, secrétaire du club des femmes qui défendent le parti politique de l'impôt unique. Le temps passe, Henri Georges meurt, l'écrivain, et avec lui son mouvement. Elisabeth cherche un moyen de raviver l'intérêt des gens pour ce système, et vu que les jeux de société c'est vachement en vogue, boum ! Elle conçoit et fait breveter The Landlord's Game, le jeu du propriétaire foncier, pour dénoncer l'oppression des rentiers de l'immobilier. Une vraie pionnière quand on sait que seulement 1% des brevets américains sont déposés par des femmes à l'époque. Ce jeu-là ressemble déjà beaucoup au Monopoly, on y achète des terrains, des chemins de fer ou des services publics, et on demande un loyer à quiconque y pose le pied, loyer augmentant au fil des maisons qu'on y construit. Un jeu dangereux puisque le but était de jouer au propriétaire en gagnant richesse et pouvoir et d'y voir là l'injustice flagrante du système foncier actuel. Et si le message ne passe pas, elle invente une deuxième règle avec le même plateau qui développe l'idée de l'impôt unique de Henri Georges, l'écrivain là. On loue seulement, on ne possède pas et les loyers sont réinvestis pour la communauté et autres joyeusetés utopistes auxquelles j'ai le gros défaut de croire très très fort. Le jeu marche et se développe, on le copie gratuitement, genre Todd, on lui donne d'autres noms. Maggie, Elisabeth Maggie, tente sans succès de l'officialiser, mais les éditeurs refusent sous prétexte que le jeu est trop politique et trop complexe. Le mouvement d'imposition unique dont elle s'inspirait rétrécit est rapidement associé à la peur du communisme. Globalement, on n'en entend plus parler. Les copies du jeu vont bon train et la deuxième règle facultative de Maggie tombe dans l'oubli. Todd fait sa petite copie en carton. Pas pour dire nul, c'est parce que les copies étaient vraiment en carton, genre en emballage de céréales, et la présente à Charles, qui fait le petit malin. En 1935, les frères Parker, qui ont acheté et lancé avec succès le Monopoly, donc un an auparavant avec Charles, découvrent dans le journal une interview d'Elisabeth et le petit mensonge de Charles, qui s'était déclaré seul inventeur du jeu. Ils rachètent les droits à Lizzie pour $500 sans redevance, et cette dernière tombe dans l'oubli, comme Todd et ses cartons Nesquik. Voilà, c'est la fin de l'histoire du Monopoly, mais j'ai quelques petites anecdotes sans transition à vous partager. Anecdote 1, le jeu Monopoly a été interdit en URSS, on n'attendait pas moins 2. Anecdote 2, les membres de la famille royale n'ont pas le droit de jouer au Monopoly. Alors, il y a plusieurs théories, tu savais ?
Ouais. Les pauvres.
Il y a plein de trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire.
Les chanceux.
Ouais.
Mais Harry et Meghan peuvent du coup maintenant.
Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'ils se sont mis ici.
Bah oui, ça leur manquait trop.
On l'a bien vu dans le documentaire de Netflix. Voilà.
Donc il y a plusieurs théories, mais on croit que c'est parce que c'est trop vicieux. Ça désinhibe, on y ment, on s'énerve, on joue au stratège. Et ce serait la reine d'Angleterre qui l'aurait décrété. Je me suis dit qu'elle était peut-être juste très mauvaise joueuse et que ça l'avait souffert. On sait pas.
Mais ils ont pas le droit au jeu d'argent tout court, je crois. Ouais. Ouais, c'est un autre débat, je crois.
Oui, c'est possible. Anecdote 3, il y a des championnats du monde de Monopoly. La championne du monde anglaise a d'ailleurs partagé une de ses stratégies, à savoir joue avec le pion préféré de ton adversaire pour le rendre plus défensif et moins audacieux. Et puis, il y a des gens, anecdote 4, leur stratégie, c'est de casser une bouteille en verre sur la tête du partenaire de jeu et puis de le poignarder. C'est une histoire vraie, ça s'est passé aux États-Unis.
Ça, c'est tout moi,
radical.
Oui.
En même temps, apparemment, le mec trichait. Donc, voilà, il y a des arguments.
Normal. Ah, bah oui,
il y a des arguments. Voilà, et puis anecdote 5, je rends l'antenne, j'arrête de crier au micro, avec une petite pensée pour Elisabeth qui voulait pas du tout ça, du coup, à la base, mais qui voulait dénoncer le capitalisme plutôt.
Oui. On t'aime, Elisabeth.
Merci, Anne-Lise. À suivre deux versions parodiques du Monopoly. Je remercie ma copine Ophélie, qui, une amie d'enfance qui s'est exilée à Genève et qui m'a passé ça. Donc, le Monopoly suisse. Puis, la radio-télé suisse a fait aussi une version du Monopoly palestinien.
Redécouvrez le jeu mythique de votre enfance dans sa version suisse.
Je tombe sur la rue du Rhône à Genève et j'achète un appart.
Ah bah non, tu peux pas. Il te faut 20% d'apport en fonds propres.
Ah,
Monopoly suisse.
Ça y est, j'ai débloqué mon deuxième pilier. Je peux enfin prendre une hypothèque sur des dizaines d'années.
Et non, ça marche pas. La somme de ton deuxième pilier ne doit pas dépasser les 10% de fonds propres.
Quel meilleur endroit que la Suisse pour ruiner vos adversaires en tentant d'acquérir un monopole immobilier.
Oh, tu viens de tomber sur Caisse Maladie. Elle te ponctionne 500 francs par mois, donc ton loyer représente plus d'un tiers de tes revenus.
Avec Monopoly Suisse, vous devrez faire preuve d'ingéniosité pour trouver un logement.
Bon, tant pis, je préfère prendre un appart à bulle, ça coûte moins cher.
Ok, mais avant de louer, tu dois absolument tirer une carte office des poursuites.
Vous ne pouvez pas louer d'appartement car vous avez une facture de téléphone impayée. Putain!
Pour régler ton créancier, tu dois faire 20 tours de plateau et 10 double 6.
Parcourez les méandres de l'immobilier helvétique.
Bam, double 6.
Super. Par contre, t'as un contact à la régie?
Je vous appelle de la part de Christiane, qui connaît bien la femme de Jean-Paul, votre comptable. Ce serait pour... Ah, il travaille plus chez vous? Putain!
Ah, tu as crié trop fort. Et comme il est 22h03, tu viens d'être dénoncé par tes voisins qui va directement... À la casse-prison.
Monopoly Suisse. Hé, tu veux jouer à un jeu?
Ouais, c'est quoi?
C'est le Monopoly palestinien.
Connais pas.
Bah c'est facile, je vais t'apprendre. Alors, on partage les cartes de territoire équitablement. 15 pour moi, 2 pour toi.
Mais j'ai pas envie de jouer.
T'as plus le choix, là. Allez, 8. Je vais construire sur ces terrains à Jérusalem-Est.
Mais t'as pas le droit de construire, c'est pas tes terrains.
Ah ouais, excuse, mais bon, désolé, trop tard, j'ai déjà construit, voilà.
Ah bon, à moi. 3. Prends une carte chance. L'ONU passe une résolution, vous récupérez 4 territoires et retirez une carte.
Oh mince.
Je retire, pas de chance, les États-Unis opposent leur veto, rendez 8 territoires.
Ouf, à moi. Double 6, usine électrique, j'achète. Maintenant je peux faire chier Gaza en coupant le courant.
Bon, à moi. 2, Naplouse, j'achète, je construis un petit hameau.
Bien, à moi.
Et tu lances pas les dés?
Pas besoin, 12. Je rase ton hameau au bulldozer pour construire une colonie de 17 maisons.
Mais t'as pas le droit, c'est écrit dans les règles.
On s'en fout des règles. Allez, 7, je passe par le start et touche 4 millions de dollars.
Mais c'est 2000 shekels normalement.
Ouais, pour toi.
Bon, à moi. 7, 1, 2... Mais putain, c'est quoi ce mur?
Bah, tu peux pas aller plus loin.
Mais j'ai aucune chance, ça finit quand ce jeu?
Jamais.
C'est horrible. C'est affreux.
Est-ce que vous vous rappelez de quand date votre dernière partie du Monopoly ou pas? Alors, est-ce que vous avez retrouvé? Moi, j'ai pas retrouvé. Dans les limbes de mon enfance.
Oui, ça doit être il y a très très longtemps.
Ouais.
Il y a
j'ai
plus de 20 ans.
J'ai une image d'emmerde, là, d'un moment très ennuyeux, mais je sais plus quand c'était. Ah ouais? Moi, je me rappelle d'une soirée Monopoly, il y a... Allez, 12-13 ans de ça, et je crois que ça avait duré 5 ou 6 heures. Mmh. C'était l'enfer. L'enfer. Je ne pouvais pas partir parce que j'étais avec mon ex, chez son frère, et j'étais coincée là.
Bah,
et j'étais obligée, et son frère, il n'arrêtait pas de tricher et tout, et de vouloir me corrompre, et moi, je voulais... Mais en même temps, je voulais que ça se termine, et je ne savais plus comment faire. Horreur.
J'allais jouer au Commons Poly, c'est pas le Monopoly, c'est le Commons Poly, Azilis. Je te laisse présenter tout ça.
Let's play.
Here we go!
C'est un jeu qui a été créé en 2015 par un groupe de 14 personnes pour retrouver l'esprit initial du jeu du Monopoly, l'esprit du jeu d'Elisabeth Maggie. C'est un peu l'inverse du Monopoly. Là, c'est un jeu coopératif. On doit collectivement empêcher les spéculateurs de privatiser toutes les ressources de la société. L'idée, c'est que toutes ces ressources, on va essayer de les transformer en biens publics, voire en biens communs, possédés par tous. Et il faut réussir à faire ça avant la fin du jeu, donc avant la fin des 20 tours. Nous, évidemment, on ne va pas faire 20 tours, on va faire qu'un petit extrait du jeu. Alors le plateau qui est devant nous, il ressemble beaucoup à celui du Monopoly. Il y a une case départ, et dans les trois autres coins, il y a aussi des cases spéciales. Puis quasiment tout le reste, c'est les biens. Donc là, c'est pas des rues. Là, ça va être des services, des ressources... Par exemple, il y a les biens environnementaux, en vert, comme les jardins. Donc, ce n'est pas juste le jardin en bas de chez toi, Cyrielle, par exemple. Tu n'as pas de jardin, mais non. C'est tous les jardins.
Pas cette chance, pas bien.
Mauvais exemple.
C'est celui des voisins.
En rouge, on a les biens urbains, comme le tram. En bleu, les biens de santé, comme l'hôpital. En jaune, les biens de connaissance, comme l'école. Certains de ces biens sont privés, d'autres publics, d'autres communs. Ça, on le décide au début du jeu en lançant les dés. On l'a déjà fait. Par exemple, dans notre partie à nous, l'université est commune, le centre de yoga est public et les rues sont privées. Alors, moi, en tant que meneuse de jeu, je vais jouer les spéculateurs et spéculatrices. Mon but, c'est de vous empêcher de nationaliser tous ces biens, là, de les rendre publics ou communs. Pour ça, je vais essayer de vous rejoindre sur les cases du plateau de jeu et de vous faire perdre des points ou vous envoyer en prison. Tout ça pour gagner un max de blé. Vous allez donc jouer contre moi ensemble, chacun et chacune avec un personnage différent. Alors Annelise, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et combien tu as de points de bien-être ?
Alors moi je m'appelle Prafoula, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Et j'ai 5, 6, 7, 8 points de bien-être.
Et alors tout le monde a 8 points de bien-être au début du jeu, et puis en fait on peut en perdre, en gagner. Alors à toi Gildwen, comment tu t'appelles et combien tu as de points d'aptitude ?
Je suis Carolina, et donc mon aptitude, si c'est la légitimité ?
Alors non, ton aptitude, c'est en haut de ta carte,
oui, d'accord, oui,
ça correspond
oui.
à chaque bien.
Oui, donc en santé, 6 points, urbain, 3 points, connaissance, 2, environnement, 1.
Et donc ça, c'est tes aptitudes à toi. Tous les personnages ont des aptitudes différentes. Certaines peuvent avoir plus de points en santé, d'autres plus en environnement. Et ça, on le garde tout au long du jeu, ça ne se dépense pas. Et en fait, pour pouvoir rendre un bien privé public ou bien un bien public commun, on va devoir utiliser 10 points. Si je veux transformer un bien environnemental en bien public, par exemple, et que j'ai 7 points d'aptitude environnement, je vais utiliser ces 7 points et je vais y ajouter 3 points de bien-être pour pouvoir le rendre public. Il faut donc qu'il y ait 10 points en tout.
Et quand est-ce qu'on joue nos points de légitimité ?
Alors, ça va venir plus tard. D'accord, justement, d'accord. J'allais demander à Antoine comment il s'appelle et combien de points de légitimité il a.
Je suis Yayo et j'ai 8 points de légitimité.
Et vous avez tous et toutes 8 points de légitimité. Ça, c'est pareil, on peut en perdre et en gagner. Ces points-là, ils servent pour le soulèvement collectif. Vous voyez, au milieu du plateau, il y a ce qu'on appelle l'agora centrale. S'il y a 3 joueurs ou 3 joueuses qui vont dans cette agora, et si vous avez 40 points de légitimité, à vous tous, à ce moment-là, vous pouvez faire le soulèvement. Le soulèvement, ça veut dire que vous choisissez une famille un peu de biens, par exemple les biens urbains ou les biens de connaissance, et tous ces biens-là deviennent communs. Donc c'est hyper puissant. Mais après, je peux essayer de vous empêcher de vous soulever, évidemment. Alors, je vous propose qu'on commence à jouer. Annelise.
Cyrielle, c'est même pas présente. C'est...
Ah, mais oui, j'ai oublié Cyrielle. Comment tu t'appelles ?
Depuis le début de la partie, tu me déçois beaucoup, Azili, je te reconnais pas. Et je vois que tu me vois même plus, alors je suis un peu triste. Moi, je m'appelle Matsuko.
Oh.
Voilà.
Ton prénom était peut-être trop étrange pour moi et j'ai essayé de l'excuser.
Oh là là.
Ça veut dire quoi, ici, ça ?
C'est horrible.
Oh. T'as changé depuis 2023, Zilis. Je tiens à te le dire, hein, en toute amitié. Hein. Bah...
Je vous rappelle que je suis une spéculatrice et que mon but, c'est de vous faire perdre.
Oui. C'est quoi la couleur de Urbain ?
C'est rouge.
Rouge.
Alors, je te laisse, Annelise, lancer le dé et démarrer la partie.
C'est parti. 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Je tombe sur le tram. C'est rouge ou c'est bordeaux ?
C'est rouge. Okay. Je l'ai colorié à la main, c'est bon.
Tram est privé. Et du coup, je peux le changer ?
Ouais.
Alors, ah bah oui, pourquoi pas ?
Ça devient public. French et main.
Oh, puis mets le gratuit.
Oui. Ah ouais, il faut que ça devienne commun. Ah oui,
voilà. Tellement.
Ouais. Alors, ouais. Je suis désolée, ça ne peut pas devenir public. Commun tout de suite.
Ah bah, je peux le rendre public. Ça peut devenir public. Parce que c'est 10 points. Et là, j'en ai déjà 6
ah oui.
de urbain.
Oh. Ah bah
on
oui.
compte sur toi,
franchement.
On compte sur toi. Vas-y.
Ok, Asie, je fais ça. Du coup, j'ai plus que 0 point de
non,
urbain.
T'as pas suivi.
Non, ça, tu les gardes à vie. Ta vie.
Tu seras toujours très urbaine.
Et j'enlève 4 de bien-être. Voilà. C'est chaud, c'est les ça. Gars, j'en ai plus que 4.
Tu me les donnes.
Merci.
Ouais, mais tu nous offres le tram.
Ouah, c'est gagné.
Yes, oui. Merci, Annie.
Allez, à toi, Gildwen. J'espère que vous n'allez pas continuer sur cette bonne voie.
Eh bah, ben, je fais 6.
Oh là là.
C'est quelle couleur ?
L'orange.
1, 2, 3, 4, 5, 6. T'es au musée, c'est public.
Ah, ah le musée, c'est public.
Eh ben, ça peut devenir commun ?
Tu peux oui, mais il faut de la connaissance.
Et t'en as pas ?
Moi, j'ai que 2 points.
Ah oui, non, je comprends.
Mais il faut pas être bête. Et tu gagnes pas des choses ?
Je regarde les images au musée.
Ouais, la bonne nouvelle, c'est que vu que c'est un bien public, ça te fait gagner 1 point de bien-être et 1 point de légitimité.
Ah, mais zéro de connaissance.
Bien. Bah, ça servira d'autre.
Ça changera pas ouais. ça. Je suis,
non,
je suis
la
désolée,
connaissance c'est... ne changera pas. Désolée.
Non, tu auras toujours qu'un seul point.
Allez, je.
Chaud.
5 aussi.
Non, c'est moi qui vais niquer.
Moi, je suis violet.
Il peut partir dans l'autre sens.
Ouais,
ou
pas ouais.
Oui, il y a deux sens du plateau, on ne vous a pas dit.
Oui, ouais. C'est étonnant. 1, 2, 3, 4, 5. Public, centre de santé mentale.
Ok. Oui, heureusement que c'est public.
Ouais. Mais bon. Tu veux pas que ça devienne commun ?
Un bien commun, notre santé mentale, c'est
ah,
vrai.
Ouais.
Alors, est-ce que je suis fort en santé ? Ah. Non, j'ai un de santé.
Ah oui, pardon.
Ouais. Oui, la santé, c'est mon domaine.
Tu ne peux pas, malheureusement.
Ouais. Il est oui, devant moi.
Alors là, par contre, vu que c'est déjà public, c'est pareil, tu gagnes un point de bien-être.
Ah,
oui.
Ah quand même. Ah.
Un bien-être, un légitimité, Antoine.
Oh là là.
Mais tu gardes ta santé.
Ouais.
3.
T'es quelle couleur ?
Moi, je suis vert.
1, 2, 3. Carte de situation.
Oh là là.
Oula.
Ah.
Qu'est-ce qui se passe ?
Je lis la carte de situation. Vous laissez le robinet ouvert et provoquez une inondation dans votre immeuble.
Ouais, d'accord. Ça, c'est voyons.
Moins un point de bien-être et moins deux points de légitimité.
Oh là là. Non, mais j'ai pas voulu faire ça. Alors, un moins.
Bah oui, mais tu feras le robinet la prochaine fois.
En même temps, ah, mais là, c'est la tête
pas
ailleurs.
Du tout.
L'économie d'énergie.
Ouais, ouais.
Bah, en environnement, je suis 4. Hein.
C'est le
ruissellement,
je pense.
Hein.
Mais t'avais la tête ailleurs, Cyril.
Ouais, tu m'as invité. Moi, j'ai que 1 en environnement.
Oh non.
J'ai fait 3. J'arrive donc sur la même case
que moi.
Et t'en veux,
Cyril.
Mais qu'est-ce qui se passe, Azilis ?
J'ai donc le choix entre soit t'envoyer en tôle, soit te faire perdre encore des points. Tandis que j'ai fait 3, je peux te faire perdre 3 points de bien-être, 3 points de légitimité, mais je vais plutôt t'envoyer en tôle.
Excellent.
Oh là là.
Je suis désolée, Cyrielle. Elle a à peine joué, elle a laissé le robinet ouvert et après, pas en prison.
Non, mais grave. Déjà que vous vouliez même pas savoir comment je m'appelle.
C'est une prison
privée. Je suis trop déçue.
C'est une société très sévère, en tout cas.
Et en plus, dans ma chronique des joueurs, j'étais déjà Calimero et tu voyais, et ben, c'est pour ça.
Moi, j'ai fait que
ça se confirme.
J'espère que c'est une prison publique.
Je
on la mettra en bien commun.
Je rejoins au musée et du coup, je regagne du bien-être et de la légitimité.
Excusez-moi, mais ça intéresse personne de savoir comment je sors de prison.
On n'aura pas le temps de te faire sortir de l'étoile dormir là.
Alors, ouais, c'est ça. Il y a des moyens de s'échapper, mais je ne te les dirai pas parce qu'on n'a pas le temps.
Allez.
Eh ben, bonne année à vous.
Gildouane 1. C'est dans les jardins,
bon, bah
c'est
voilà.
Commun.
J'ai bien fait.
Putain, tu te fais chier, toi.
Donc, tu gagnes 2 points de bien-être et 2 points de légitimité. Gildouane,
il faut que gagner des points de bien-être.
Ah oui, moi, je gagne des
deux points.
Fais-nous en profiter.
Oui.
Allez.
Et personne ne peut me donner ses points pour me faire sortir ?
2.
Ah ouais ? On peut pas donner.
C'était... Je voulais que tu
cherches. Oh, bah 2. Ça me va. 2.
T'es un violet, toi ?
Ouais, je suis violet.
Oh non, une
carte de situation.
Oh, attends, j'ai fait quoi encore ? J'ai jeté mes poubelles dans la rue.
Vous citez Gandhi sur Twitter, plus 1 point de bien-être, moins 2 points de légitimité.
Oh là là, c'était avant que Twitter soit racheté.
Ah, ils ont quand même mis moins 2 points de légitimité. Ok, c'est drôle.
Ouais.
Il y a de la subtilité.
Oh là là.
Bon, Cyril.
Qu'est-ce que j'ai dit de Gandhi ? Bah,
Cyril ne fait rien puisqu'elle est en prison, donc je vais récupérer le dé.
Bah ouais, débrouille-toi pour le récupérer.
Oui, parce qu'elle
j'ai trop le seum.
Alors, je fais 4. 1, 2, 3, 4. Je suis dans les jardins avec Gildouane.
Au secours, au secours, j'ai rien fait, j'étais gentille.
Gildouane, j'étais en prendre un
max. Super, j'ai fait 4. Tu perds 4 points de bien-être et 4 points de légitimité.
Oh bah, tout ce que j'avais gagné.
Excellent.
C'était bien
et bon, allez, on va laisser jouer une dernière fois Annelise pour pas finir sur cette note et après
et
on va devoir s'arrêter.
Arrête.
Allez.
Pourtant j'aimais bien. Ok,
pas
je fais
moi.
Un, je fais que un. Oh non.
Non mais on a pas le droit d'être deux sur la même case, enfin d'être trois sur la même case.
Bah du coup je fais quoi ?
Du coup tu recules d'une case.
Trop
allez.
Bizarre. Je vais voir le tram.
Encore ?
Mais le tram je l'ai rendu
t'as
public.
T'as passé ta soirée.
Ah tu l'aimes bien ton tram ouais.
Du coup je gagne un point de bien-être et un point de légitimité.
Ah bah oui.
Exactement.
Du coup tu viens me voir en prison ?
Alors on va s'arrêter là parce qu'on n'a pas 3 heures devant nous. Alors on ne sait pas si c'est aussi long que le Monopoly, mais ça en a un peu l'air. Là, est-ce que vous avez l'impression d'être en train de gagner ou que je suis en train de vous écraser ?
Je sais pas, c'est chaud.
Tu nous écrases quand même là.
Ah ouais ?
Je sais pas. On a déjà perdu Cyril.
Voilà, on a perdu Cyril. Moi, ce que j'avais gagné, je l'ai reperdu.
Donc je pense que le mieux, c'est de s'arrêter là.
Ouais.
C'est une victoire de ma part.
C'était pas non plus.
Ouais, bon. un peu de musique pour se remettre de ses émotions. Voici Money de Tom Misch et Michael Kiwanuka.
Money, I feel a killing love. Money, can't you see my diamond ring? 20,000 carat gold. Girl, I wanna talk to you. Feel ashamed spending 'cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever be.
Merci, c'était Monet de Tom Mich et de Michael Kiwanuka. Et sinon, quoi de neuf dans le jeu à Nantes, Guildouen?
Quoi de neuf?
Eh bien, l'association Les Ludopathes Nantais, association de jeux de plateau, organise un week-end de jeux du vendredi 3 février à partir de 20h jusqu'au dimanche 5 février 16h. C'est au MFR du Val d'Erdre, 551 rue d'Anjou à Riaillé. Tout compris, c'est 60 euros du vendredi au dimanche, de nuit plus tous les repas et petits déjeuners. Et d'autres formules existent si vous voulez rester moins longtemps. Les inscriptions sont avant le 22 janvier sur leur site web en précisant la formule choisie à l'adresse suivante http://weekend.lesludopathesnantais.fr. Et les ludopathes vous accueillent également les mardis et vendredis à partir de 20h à la Maison des Jeux de Nantes.
Merci Guildouen. Et Brian, c'est à toi la réponse de l'énigme.
Ah bah oui, je...
Oui, je... Ah bah oui, j'ai ma petite idée.
Le club des platistes sur Prune, 92 FM.
Alors, je vous répète l'énigme. Alors, apparemment Guildouen a déjà une idée. Je suis lourde, je suis légère, mais je suis impalpable. On me met
tu sais
ou on me casse.
Je propose
qui suis-je ?
La réputation ?
Non.
Il a échoué.
Une blague, on casse pas une blague.
Non, la liberté ?
Non, pas la liberté.
C'est quoi avant on me casse ?
Impalpable.
Je suis lourde, je suis légère, mais je suis impalpable. On me met ou on me casse ?
La boîte ? Non.
En plus, on me l'a déjà dit, hein, j'en suis sûre.
Mais oui, moi aussi, je suis sûre.
Bah, pas moi.
Un rêve ?
Non.
La paix. Le sommeil.
Non plus.
La paix.
Pas la paix.
Ah, c'est pas loin.
Quelque chose comme ça.
Guildouen était quand même sur la. En termes de notion de mots concept un peu.
Ah, la réputation, tout
oui,
ça.
Oui, c'est pas la réputation. Alors.
L'honneur.
La célébrité.
Non.
Conséquence, c'est lourd de conséquences.
Je suis lourde, je suis légère, mais je suis impalpable.
Une décision.
Non.
Dommage. Ah,
ça aurait pu. Ouais.
Alors, pensez à votre nouvel an.
Une résolution ?
Non.
Ah.
Oui, moi, je fais des nouvel an très sérieux.
Une nuit blanche.
Je vais rajouter un truc. Elle peut être bonne comme elle peut être mauvaise.
Oui. Nouvelle.
Une soirée ?
Alors, une année ?
Souvent, on dit ce mot-là dans le contexte de soirée.
Je vois
l'ambiance. Ah, l'ambiance.
Oui, oui, bah oui, l'ambiance.
Oh, l'ambiance.
C'est pour
oh
toi.
Là
Suisse,
là, deux à la suite. Ah là là.
On met l'ambiance, on casse l'ambiance.
Guildouen, décevant.
Je suis lourd, je suis déjà.
Désolé, ouais.
Ah oui,
c'était pas mal.
Ah, bravo. Eh ben, je suis très heureuse que ce soit toi qui gagne, même si tu m'aimes pas dans le jeu ce soir.
Bravo. Eh bien, on va s'arrêter là. J'ai vu vite fait un jeu qui s'appelle The Last Wheel, sorti en 2011. C'est un concept assez drôle, où on hérite d'une grande fortune et le but c'est de dépenser l'argent le plus vite possible. Et celui qui a plus d'argent a gagné. Donc il faut faire des restos, des fêtes. Je trouvais ça rigolo de conclure là-dessus, mais on n'a pas testé. Last Will de Vladimir Succi. Et la prochaine fois, on parlera des jeux en grand. C'était le Club des Pâtistes. Merci.
Merci.
Merci beaucoup. Bon après-midi.
Bon dimanche. J'ai la fève.
Game over.